Merci d'écouter RFI. Il est 3h à Paris, 1h temps universel.
Mathis Limano.
Suite et fin des célébrations de Pâques, ce lundi, partout dans le monde, les chrétiens célèbrent la résurrection du Christ, une fête qui a une résonance particulière pour les chrétiens d'Orient, notamment en Syrie. Reportage à suivre dans un monastère où chrétiens et musulmans célèbrent ensemble, malgré les fortes tensions dans le pays. C'était justement à l'occasion de Pâques que Vladimir Poutine a ordonné samedi une trêve dans le conflit avec l'Ukraine. Émaillée par des combats, elle est désormais terminée depuis quelques heures. Donald Trump espère obtenir un accord cette semaine. Top départ ce lundi de la tournée d'Emmanuel Macron dans l'océan Indien. Première étape, Mayotte. Et puis plus d'un million de comprimés d'ecstasy. C'est la très grosse prise annoncée ce week-end par les autorités tunisiennes. C'est la fête la plus importante dans le christianisme. Ce dimanche marquait le début des fêtes de Pâques qui se poursuivent jusqu'à lundi. Pour les chrétiens de Syrie, elles ont une saveur toute particulière cette année. C'est en effet la première Pâques depuis la chute du régime de Bachar el-Assad. Et alors que les tensions entre les communautés sont palpables depuis les massacres qui ont visé la minorité alaouite début mars, chrétiens et musulmans étaient réunis dans le désert au nord de Damas, dans le monastère de Mar Moussa. Un monastère qui fait figure depuis toujours de symboles interreligieux. Reportage RFI, Manon Chaplin.
Il est 4h du matin et des cantiques s'élèvent à travers le monastère. À l'intérieur des tapis, des bibles et des bougies, une vingtaine de croyants pour célébrer la messe de Pâques se sont rassemblés ici. Avec les récentes tensions communautaires, Mar Moussa, perché sur les hauteurs du massif de Kalamoun, c'est pour Ranim Ibrahim, transformé en refuge.
J'ai peur car il y a trop de violence. Ici, vous pouvez échapper à la peur, car tout le monde s'aime, pas parce que tu es chrétien ou musulman, simplement parce que tu es humain.
Ne pas faire de différence entre les communautés, dialoguer, c'est pour cela que ce monastère a, dans les années 80, été rénové. Une quinzaine de religieux catholiques qui reçoivent régulièrement des musulmans organisent des prières communes. Iyam Mekber est arrivé ici il y a 4 jours.
Je suis musulmane, mais ici, ils ne me font pas sentir que je suis différente. Mon père était un combattant durant la Révolution. Le père Djihad a prié pour lui et il a réussi à toucher très profondément mon cœur.
Depuis l'enlèvement de son fondateur, le père Paolo Dall'Oglio, par l'État islamique en 2013, c'est lui, le père Djihad Youssef, qui a repris le contrôle du monastère. Durant ses messes, il prêche des messages d'amour, de paix.
Et on essaye, dans cet contexte de tension, de vengeance, de dire qu'il faut le courage pour vaincre la haine. L'amitié peut sauver le monde.
L'amitié pour sauver le monde, l'amitié, ajoute-t-il, pour, après plus d'une décennie de guerre, reconstruire ensemble la Syrie. Manon Chaplin à Mar Moussa, RFI.
Et lui a célébré la messe de Pâques assis dans son fauteuil roulant depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre. Affaibli depuis son hospitalisation, le pape François a donné ce dimanche sa bénédiction Urbi et Orbi. Il a également eu un mot pour les populations en proie à la guerre avant de s'offrir un bain de foule sur la place Saint-Pierre à bord de sa papa mobile. La guerre qui a connu un calme très relatif en Ukraine lors de ce week-end de Pascal. La trêve décrétée par Vladimir Poutine s'est achevée il y a quelques heures, première pause depuis le déclenchement du conflit il y a 3 ans. Elle a été émaillée de nombreux affrontements. Les deux camps se rejettent la faute. Donald Trump, qui montre des signes d'impatience, voire d'agacement, dit lui espérer un accord dans la semaine. Dans la bande de Gaza, pas d'arrêt des combats en vue. Au moins 25 personnes sont mortes dans des frappes ce dimanche, selon la défense civile. Par ailleurs, l'armée israélienne a publié un rapport sur la fusillade le mois dernier qui a tué 15 secouristes palestiniens. L'armée reconnaît des fautes. Elle va limoger un officier qu'elle estime responsable et dit regretter les victimes collatérales. Mais le rapport souligne que les militaires n'ont pas tiré à l'aveugle et affirme que 6 membres du Hamas faisaient partie des secouristes. Le croissant palestinien dont faisaient partie ces secouristes dénonce un rapport truffé de mensonges. Le conflit à Gaza qui s'exporte au Maroc. Plus d'un millier de personnes ont manifesté ce dimanche dans la ville portuaire de Tanger. Ils ont protesté contre l'accostage d'un navire suspecté de transporter vers Israël des pièces détachées d'avions militaires. Les manifestants ont également appelé à la fin de la normalisation entre le Maroc et Israël, une normalisation actée en 2020 en échange de la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Et puis au Yémen, une dizaine de personnes sont mortes dans des frappes aériennes. Elles sont imputées aux États-Unis qui bombardent quasi quotidiennement les positions des rebelles houthis. Emmanuel Macron entame une tournée dans l'océan Indien. Première étape, ce lundi, Mayotte. Le chef de l'État français s'était déjà rendu sur l'archipel après le terrible cyclone Chido. Mais voilà, 4 mois sont passés. Emmanuel Macron honore donc sa promesse de revenir sur place. Valérie Gasse, vous suivez cette visite présidentielle pour RFI.
Tenir son engagement, c'est l'objectif d'Emmanuel Macron de retour à Mayotte 4 mois après le passage dévastateur du cyclone Chido. En décembre, le chef de l'État avait constaté les ravages, les bâtiments et les infrastructures étaient détruits, la population exsangue. Le président de la République était venu manifester le soutien de la nation aux Mahorais et faire des promesses. Il avait d'ailleurs été confronté à la colère de certains habitants qu'il avait pris à partie. Depuis, les visites ministérielles se sont succédées, une loi d'urgence a été adoptée. Emmanuel Macron revient selon l'Élysée pour voir comment on a réparé les blessures et engagé la phase de reconstruction, alors que le nouveau projet de loi sur la refondation doit être présenté ce soir lors d'un conseil des ministres en visio qu'Emmanuel Macron présidera de son avion. L'ambition affichée est que Mayotte soit plus belle qu'avant le cyclone, explique l'entourage du président. Un défi au vu de l'ampleur des travaux encore à réaliser et de l'impatience de la population. Emmanuel Macron a prévu de rencontrer les élus et les habitants pour faire un premier bilan sur l'avancement des chantiers, mais aussi la question très sensible de l'immigration clandestine en provenance des Comores et des expulsions dont il avait fait une priorité en décembre. Valérie Gasse, Mayotte, RFI.
Emmanuel Macron poursuivra sa tournée de 5 jours dans l'océan Indien par la Réunion, Madagascar, puis l'île Maurice. RFI en Tunisie à présent avec cette saisie, l'une des plus importantes de la garde nationale tunisienne, saisie d'1 200 000 comprimés d'ecstasy. Un coup de filet dans un contexte où la Tunisie intensifie sa lutte contre le trafic de stupéfiants, Lydia Blaise.
C'est dans le gouvernorat de Nabeul, à 60 de kilomètres de Tunis, que s'est déroulée cette saisie de grande ampleur. Selon le communiqué de la garde nationale tunisienne, publié le 19 avril, les autorités ont démantelé un réseau international de trafiquants de drogue et saisi plusieurs voitures de luxe qui servaient au trafic. Cette opération record s'est déroulée après plusieurs mois de surveillance. La garde nationale communique sur des saisies presque quotidiennes qui témoignent de l'augmentation du trafic de drogue en Tunisie. Le porte-parole de la direction de la Sûreté nationale, Imed Memacha, avait même annoncé en mars que la Tunisie est devenue un pays de consommation de drogue par excellence à cause de la banalisation de l'usage de psychotropes chez les jeunes de 16 à 18 ans, dont la consommation de drogue a été multipliée par 5 ces dernières années. La diffusion de stupéfiants en milieu scolaire a également augmenté. La Tunisie n'est pas un pays producteur de drogue et fait l'objet de trafic accru avec l'Europe pour les drogues dures et de synthèse. Plus de 5000 trafiquants ont été arrêtés dans le pays en 2024 contre 3165 en 2023. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
Cela fait 16 ans qu'elle n'avait pas été exposée. La dent du Bouddha est visible depuis quelques jours au Sri Lanka. Cette relique dispose même d'un temple dédié à Kandy dans le centre du pays. Des milliers de fidèles affluent dans ce lieu sacré pour les bouddhistes. Problème, une photo de la dent circule sur les réseaux sociaux alors que les photographies de la relique sont interdites. Une affaire qui provoque un vif émoi dans un pays majoritairement bouddhiste. Grégoire Motte, une enquête a même été ouverte par les autorités sri lankaises.
La photo de la dent du Bouddha qui circule sur les réseaux sociaux est-elle une vraie ou s'agit-il d'un montage? C'est pour répondre à cette question que les autorités du Sri Lanka viennent de lancer une enquête. Cette canine gauche provenant supposément de la bouche de Bouddha lui-même ne peut théoriquement pas être prise en photo. Les dizaines de milliers de fidèles bouddhistes qui affluent depuis quelques jours pour la vénérer sont systématiquement fouillés à l'entrée du temple et les téléphones et appareils photos sont interdits. Plus qu'un objet de dévotion religieuse, cette dent est aussi un symbole de la souveraineté de l'État. Durant l'exposition, elle est placée sous la très haute surveillance de 10 000 policiers et militaires venus pour l'occasion. Si quelqu'un a pris une photo à l'intérieur du temple, il s'agit d'un grave manquement à la sécurité, assure un responsable policier à l'AFP, ajoutant qu'il y a une présence importante d'officiers civils à l'intérieur du temple. Lors de la dernière exposition de la dent en 2009, plus d'un million de personnes étaient venues vénérer la relique.
Les explications de Grégoire Motte. Et puis en Ligue 1, après une interruption de 45 minutes à cause d'un projectile lancé sur un arbitre, le derby Saint-Étienne-Lyon s'est soldé par une victoire des locaux, 2-1. Enfin en Angleterre, Arsenal retarde le sacre de Liverpool. Les Gunners qui se sont imposés 4-0 chez le désormais relégable Ipswich. RFI, il est 3h10 à Paris. Bonne suite des programmes sur la Radio Mondiale.